Radio Okapi.
Les informations, Belinda Bousouma.
Désormais, les crimes commis au Nord Kivu depuis 2022 font partie de l'enquête du procureur de la CPI. Décision annoncée hier par Karim Khan. Il s'agit d'une stratégie de justice transitionnelle à long terme, durable et viable en RDC, explique le procureur de la CPI. Grève dès aujourd'hui des médecins membres du SINAMED dans toute la RDC, sauf les deux provinces sous état de siège. Décision prise le week-end à Kinshasa. Le syndicat national des médecins accuse le gouvernement de mauvaise foi. Entre-temps, il s'ouvre ce même mardi à Kinshasa les travaux d'évaluation réunissant le gouvernement et les médecins. Et puis, lutte contre le cancer du sein. L'OMS initie un projet dénommé Octobre Rose. C'est pour sensibiliser la communauté sur cette maladie. Pour en parler, nous recevons le docteur Gisèle Kilomba, médecin directeur de la clinique Ma Famille de Beni. Madame, messieurs, bonjour. Désormais, les crimes commis au Nord Kivu depuis le 1er janvier 2022 font partie de l'enquête du procureur de la CPI, Cour pénale internationale. Cette décision de réactiver les enquêtes en République démocratique du Congo est annoncée dans une déclaration faite hier par Karim Khan. Le procureur de la CPI affirme que les autorités de la RDC ont à deux reprises saisi son bureau de renvoi aux fins d'initier des enquêtes sur le territoire congolais. Pour Karim Khan, il s'agit d'une stratégie de justice transitionnelle à long terme, durable et viable en RDC, que la CPI et la communauté internationale peuvent à la fois soutenir et s'en inspirer. Explication, Grâce Amzati.
Selon Karim Khan, au cours des derniers mois, son bureau a évalué à titre préliminaire si les crimes présumés relevant du statut des Roms commis dans la province du Nord Kivu depuis janvier 2022 sont suffisamment liés à la portée de la situation faisant l'objet d'une enquête déjà ouverte en RDC. Cette évaluation est arrivée à son terme. D'où, je le cite, « J'ai déterminé que les derniers épisodes des violences dans la province du Nord Kivu sont liés à des schémas récurrents de violences et d'hostilité qui sévissent dans la région depuis au moins le 1er juillet 2002, date à laquelle la Cour a commencé à exercer sa compétence en RDC. Par conséquent, tous les crimes présumés relevant du statut des Roms commis dans la province du Nord Kivu depuis le 1er janvier 2022 relèveraient de l'enquête en cours ouverte en juin 2004, fin des citations. Il rappelle que ces enquêtes dans la province du Nord Kivu ne se limiteront pas à des parties au conflit en particulier ou à des membres des groupes armés spécifiques. Au contraire, son bureau examinera de manière globale, indépendante et impartiale la responsabilité de tous les auteurs présumés ayant commis des crimes relevant du statut des Roms, précise-t-il. Aussi, son bureau accordera une attention particulière au principe de complémentarité et recherchera la collaboration et la coopération des autorités nationales et de celles de tous les acteurs pertinents en vue d'assurer une justice efficace pour les victimes des crimes en question. Par ailleurs, le procureur de la CPI salue la décision prise par les autorités congolaises de mettre en place un comité de pilotage pour travailler à l'établissement d'une cour pénale spéciale pour la RDC.
Dans l'actualité aussi, les médecins membres du syndicat national des médecins, SINAMED, décrètent un mouvement de grève avec un service minimum dès ce mardi 15 octobre sur toute l'étendue de la RDC, à part les deux provinces sous état de siège. Décision prise lors de leur assemblée générale tenue le week-end à Kinshasa. Selon le secrétaire général de SINAMED, seules les urgences ainsi que les centres de prise en charge de l'épidémie de monkeypox seront opérationnels. Ces médecins accusent le gouvernement de mauvaise foi pour n'avoir pas honorer ses promesses, notamment l'amélioration des conditions socio-professionnelles des blouses blanches. On écoute à ce sujet le secrétaire général du SINAMED, Dr John Senga, au micro de Grâce Amzati.
Pourquoi nous commençons un mouvement de grève aujourd'hui? Il vous en souviendra que l'année passée, au mois de mars, nous avons signé un avenant à l'accord que nous avions précédemment signé au mois d'août 2021 avec le gouvernement de la République. Vous vous rendez compte que aujourd'hui, le gouvernement n'a pas réalisé ses propres engagements. Les médecins des services publics de l'État réclament, un, c'est qu'on leur paye au grade statutaire. Deuxièmement, c'est la majoration de notre prime de risque, de notre rémunération en fait. Vous savez que la grande partie de notre rémunération est faite par la prime des risques et le gouvernement s'était engagé à pouvoir l'améliorer. Troisième chose, c'est l'alignement des médecins, des jeunes à la prime des risques professionnels. Ces médecins qui ont été engagés par le même gouvernement, qui travaillent, mais qui ne sont pas rémunérés. Quatrièmement, c'est la mécanisation des médecins qui travaillent sans avoir été mécanisés, c'est-à-dire reconnus par la fonction publique. Mais aussi, les conditions sociales des médecins se sont dégradées. Vous voyez les médecins manquer des fonds pour se faire soigner, des médecins qui sont des locataires qui sont en train d'être chassés, et ça n'indispose pas le gouvernement.
Sachez que le début de cette grève coïncide avec l'ouverture ce même mardi à Bibwa, ici à Kinshasa, des travaux d'évaluation et d'analyse des différents cahiers de charges et accords entre le gouvernement et les médecins. Toutefois, Dr John Senga indique que cette grève pourra être suspendue s'il y a un compromis à l'issue de ces assises. Par ailleurs, lancé le 4 octobre courant, le préavis de grève de l'intersyndicale des professionnels de la santé a pris fin hier à minuit. Et c'est ce qu'affirme le porte-parole de la Fédération des syndicats des infirmiers du Congo dans un entretien accordé aux médias à Kinshasa. Selon Joseph Kibangula, le gouvernement souminois n'a pas pris en compte les désidérata des blouses blanches. Pour lui, cette indifférence du gouvernement risque d'entraver le programme du chef de l'État relatif à la gratuité de la maternité et la couverture santé universelle. Joseph Kibangula explique au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
La Fédération des syndicats des infirmiers du Congo dénonce et déplore le manque de volonté politique ainsi que la mauvaise foi du gouvernement qui est censé aider le chef de l'État dans son vaste programme de la couverture santé universelle. C'est ici l'occasion de rappeler au gouvernement que nous ne cesserons d'insister que sans les concours des infirmiers, ni la gratuité de la maternité et les soins aux nouveau-nés, ni la lutte contre les épidémies du genre Mpox, ni toute autre activité sanitaire ne peut réussir. De ce qui précède, la Fédération des syndicats des infirmiers alerte tous les infirmiers du secteur public d'être très conscients, prêts et de prendre les dispositions utiles selon les modalités arrêtées par les syndicats de la santé dans la lettre du 12 octobre 2024. Seule la lutte libère. La peur rend esclave et ne profite qu'à l'oppresseur.
Notez qu'une commission paritaire est attendue cette semaine entre le gouvernement et le banc syndical des prestataires de santé à Bibwa. En Ituri, plusieurs écoles primaires publiques sont en grève depuis hier dans le territoire de Mambasa, à 165 km au sud-ouest de Bunia. Cette action fait suite à l'appel du syndicat national des enseignants des écoles publiques qui a décidé de durcir le mouvement de grève sur l'ensemble du territoire national. Lors de leur assemblée générale tenue dimanche, les enseignants ont exigé une amélioration de leurs conditions salariales avant la reprise des cours. Entre-temps, des milliers d'enfants sont privés d'éducation. Et puis, les déclarants en douane issus des différentes corporations du Congo central exerçant à Matadi, Boma et Lufu sont en grève depuis plus de 10 jours. Ils réclament notamment la suppression de la redevance logistique terrestre. D'après Bruno Nzao du Rassemblement des déclarants consciencieux Redeco, cette redevance qui ne devait durer que 2 ans totalise aujourd'hui 10 ans depuis qu'ils la payent, ce qui viole la loi régissant non seulement le code de douane mais aussi tous les textes réglementaires et légaux en la matière. Et les conséquences de cette grève se font déjà sentir sur le terrain. On parle de la rareté de plusieurs produits ainsi que l'engorgement des ports à travers la province. Le ministre des Hydrocarbures annonce l'annulation du processus d'appel d'offres des 27 blocs pétroliers. Comme raison, Aimé Sakombi Molendo évoque les rapports de validation respectifs de la commission qui révèlent une absence des candidatures, des offres non recevables, des cas de dépôt tardifs, des offres inappropriées ou irrégulières et un défaut de concurrence. Dans un communiqué rendu public hier, le ministre indique que ceci empêche la poursuite de la procédure vers l'attribution des droits d'hydrocarbures. Dans le même document, le ministre annonce la mise en place du mécanisme pour relancer incessamment la même procédure. Par conséquent, il demande aux candidats ayant soumissionné de prendre contact avec la commission ad hoc pour les modalités pratiques. Jocelyne Moussaoupondé nous rappelle ici le processus d'appel d'offres relatif au bloc pétrolier.
Ce processus d'appel d'offres relatif aux blocs pétroliers avait été lancé le 28 juillet 2022. Ces blocs se répartissent dans les trois principaux bassins sédimentaires de la RDC, à savoir le bassin côtier, le bassin de la cuvette centrale et les bassins de la branche ouest du rift est africain. Selon le ministère des hydrocarbures, la RDC contient des ressources pétrolières estimées autour de 22 milliards de barils de pétrole et 66 milliards de mètres cubes de gaz méthane dans le lac Kivu, capable de placer le pays au premier plan des grands producteurs de pétrole et du gaz dans un environnement d'exploitation unique. Une commission ad hoc a été instituée par l'arrêté ministériel du 17 juillet 2023 portant nomination des membres de la dite commission sur l'attribution des droits d'hydrocarbures en République démocratique du Congo et a procédé à l'évaluation des soumissions des différents candidats. Avec cette décision du ministre des hydrocarbures, le processus est donc interrompu.
Entre-temps, la province du Nord Kivu dit avoir enregistré plus de 5,3 millions de dollars de manque à gagner dans le secteur minier durant l'exercice fiscal 2020-2024. Le gouverneur Peter Chirimwami l'a révélé lors du lancement hier de la première journée minière de Goma. Ce forum réunit une centaine d'acteurs et opérateurs miniers œuvrant dans la province. Si ces acteurs parlent aussi des défis auxquels ils font face, le gouverneur dit attendre de cette activité des réponses à sa préoccupation. Bernard Denyangi.
La baisse de la contribution du secteur minier dans l'assiette fiscale au Nord Kivu est de plus en plus exacerbée par la violence, dit le gouverneur militaire. Le général-major Peter Chirimwami espère trouver certaines réponses à cette préoccupation lors de ce forum.
La collecte de l'impôt sur la superficie des concessions minières relève de la compétence de la province. 2020-2024, le trésor public provincial du Nord Kivu vient d'enregistrer un manque à gagner de 5 378 000 dollars, d'où la nécessité d'organiser cette journée minière de Goma.
Pour le président du conseil d'administration du cadastre minier, il sera question de sensibiliser les opérateurs miniers pour honorer les redevances provinciales. Le député Crispin Mbindoulé mentionne cependant quelques défis.
En ce qui concerne les droits superficiels, les opérateurs du Nord Kivu, 80% et du Nord Kivu de Kinshasa, nous sensibilisons et aussi payer au niveau de la province. Le défi majeur, c'est la guerre. Vous savez, le cadastre minier n'a plus accès aux mines de Rubaya. Nous avons déposé notre proposition pour que Rubaya soit déclarée interdite conformément au code minier.
Remettre de l'ordre et améliorer le secteur minier sont entre autres objectifs de cette journée minière convoquée par le gouverneur du Nord Kivu. Goma, Bernard Denyangi, Radio Okapi.
Par ailleurs, la première conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures du Maniema a ouvert ses portes hier à Kindu. Le coup d'envoi de cet important rendez-vous a été donné par le ministre Kizito Pakabomba des Mines. Ce dernier formule le vœu de voir les participants à cette conférence de prendre la résolution d'augmenter le nombre des trafics ferroviaires entre Kindu-Kalemi et Kindu-Lubumbashi, y compris la réhabilitation des voies routières, fluviales et ferroviaires entre Lubutu et Kisangani. Objectif désenclavé le Maniema tout en luttant contre la sortie frauduleuse des produits miniers de cette province vers d'autres provinces. Dans l'actualité aussi, Radio Okapi vous propose une série de reportages intitulée « Le VIH-Sida à Beni, Butembo et Lubero, une crise silencieuse au cœur de l'insécurité ». Dans ce premier numéro, nous explorons l'impact dévastateur de l'insécurité sur la flambée des cas de VIH-Sida dans cette région du Nord Kivu en proie à l'insécurité depuis plus d'une décennie. Les dernières statistiques de la sous-coordination locale du Programme national de lutte contre le Sida révèlent qu'aujourd'hui, plus de 12 000 personnes suivent un traitement antirétroviral, sans compter celles qui ignorent leur statut sérologique. Martial Papimoukeba nous plonge dans cette crise sanitaire souvent oubliée, laissée dans l'ombre des conflits armés. Reportage.
À Beni, Butembo et Lubero, le nombre de personnes vivant avec le VIH continue d'augmenter. Le docteur Nikes Mate, responsable de la sous-coordination locale du PNLS, attribue en partie cette situation à l'insécurité.
Beaucoup de structures de santé ont été attaquées. Les malades qui étaient en suivi se sont retrouvés dispersés. Il y a beaucoup de gens qui ont fui les zones de conflit pour se retrouver dans les grands centres, obligeant les jeunes filles, les femmes à se livrer à la prostitution.
Pour Pourtant, une grande partie de la population de Beni Boutembo et Lubero ignore toujours leur statut sérologique, avertit le docteur Baba Mutuza, médecin directeur de la clinique Dieu est grand à Beni.
Est-ce que la plupart sont au courant de leur état sérologique? La réponse est non. Est-ce que nous faisons nous les examens? Si. Est-ce que nous communiquons les résultats? Non, parce que à Beni, il y a des centres pour faire les counseling et annoncer les résultats. Mais maintenant, depuis le mois de janvier, nous sommes dans les 700. Le nombre de jeunes dont l'âge varie entre 15 et 25 ans sont venus faire les examens. Quand on a fait 2-3 tests, ils sont séropositifs. Ce sont des véritables bombes à retardement.
Cette situation met en évidence que tout comme l'insécurité, la lutte contre les VIH-SIDA doit devenir une priorité à Beni, Boutembo et Lubero. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Actualité internationale. Nous sommes au Nigeria, touché depuis plus d'un mois par des terribles inondations. L'état de Kogi, dans le centre du Nigeria, redoute désormais d'être confronté à une crise humanitaire majeure et lance un nouvel appel à l'aide. Situé au sud de la capitale Abuja, il est aussi surnommé état de la confluence car c'est ici que la rivière Benue se jette dans le fleuve Niger.
L'invité.
Le cancer du sein, une maladie héréditaire fatale dont le danger est permanent pour la communauté féminine, l'alerte est de l'Organisation mondiale de la santé OMS qui a initié le projet Octobre Rose afin de sensibiliser la communauté sur cette maladie. Quels sont ces indices et quelles sont les recommandations médicales préventives? Pour en parler, nous recevons le médecin directeur de la clinique Ma Famille de Beni, Dr Gisèle Kilomba, est avec Marc Marofimbo.
Docteur Gisèle Kilomba, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Nous sommes dans le mois d'octobre, dit Octobre Rose, initié par l'OMS pour la sensibilisation de la communauté en général sur la maladie des cancers des seins. Tout d'abord, comment expliquez-vous scientifiquement cette maladie ainsi que son origine?
La population a l'obligation de connaître et de savoir. La détection précoce du cancer du sein contribue à améliorer les taux de survie. Parce que le cancer, c'est une maladie fatale, mortelle. Mais le cancer a des stades. Il y a stade 1, 2, 3, 4. Le début d'un cancer est anodin, ça ne fait pas mal. Quand ça fait mal, donc il y a un problème. On va détecter le problème quand il y a la douleur. Et quand on a détecté cela à cause de la douleur, le cancer, c'est la multiplication en désordre des cellules dans l'organisme. Donc, quand il y a déjà des métastases, même si on soigne l'organe qui est atteint, le sein, mais il y aura déjà métastases et prolifération dans d'autres cellules qui détruisent la vie. Par exemple, au niveau du poumon, au niveau des os du bassin. C'est pour cela, nous toutes, quand une femme et une maman te dit qu'elle a souvent des douleurs des hanches, il faut l'amener à l'hôpital. On va aussi examiner les seins. Parce que c'est probable que dans l'organisme, un seul organe comme le sein peut altérer la vie. Et tôt on détecte, tôt on améliore les taux de survie.
Nous voulons savoir si quelle tranche d'âge qui connaît plus de cas de cette maladie et quels en sont les signes.
Bon, d'abord, je demande à toutes les femmes en âge de procréation, donc toutes les filles qui ont déjà commencé à avoir les menstruations, il faut qu'elles soient informées sur l'autopalpation. Palpez vos seins régulièrement, pas aller se faire palper, parce que dans la communauté, il y a souvent la confusion, la délinquance juvénile, les filles qui s'adonnent à la sexualité précoce, ça, ce ne sont pas les méthodes qui aident. Il faut une éducation pour cela. Et comme je remarque que nos petites filles, il faut faire dépister les petites filles. Il faut que les parents sachent qu'avoir la fille à la maison, il faut savoir suivre toutes les étapes de la croissance.
La maladie est fatale, est mortelle, comme vous aviez dit. Quels sont les conseils des professionnels de santé comme mesure préventive à la population et surtout à la femme paysanne?
Les conseils, d'abord, j'ai dit le dépistage, là, l'autopalpation des seins. Après chaque menstruation, la jeune fille doit apprendre. C'est une méthode simple, la méthode de Thilo. Tous les personnels soignants, les médecins, ils savent ce que c'est. Nous, par exemple, ici à Beni, il n'y a pas de mammographie. Normalement, notre gouvernement doit nous doter. L'hôpital général de Beni devrait être l'unité où nous toutes nous devrions nous rendre pour nous faire dépister. C'est Octobre Rose. Mais si nous regardons dans notre province, c'est seulement à Goma ou à Bukavu ou au Sud-Kivu. Et d'autres, ceux qui ont des moyens, ils vont à l'étranger, à Kampala. Mais nous toutes, nous n'avons pas ces moyens. Toute la population ne peut pas aller là-bas. Donc aujourd'hui, nous devons lutter sur cela. Nous devons prolonger la vie de nos mamans, notre vie, nos filles, nos mamans, nos grands-mères. Que ça ne soit pas une surprise. Et c'est simple. l'autopalpation et le dépistage précoce. Parce que les maladies des organes génitaux internes et l'utérus vont de pair avec les maladies du sein. Le fonctionnement des seins va de pair avec le fonctionnement du cycle menstruel de la femme. Donc, nous devons parler du cycle menstruel, de l'hygiène menstruelle, du cycle menstruel et des comportements qui réduisent la fréquence de la survenue de ces cancers. Un autre effet, nous devons prendre les contraceptifs sous conseil médical. Nous ne devons pas nous habituer à prendre les pilules de protection d'urgence, là, les prendre en désordre. Ça perturbe beaucoup de choses et ça peut prédisposer à la longue. Donc, les conseils du médecin, aujourd'hui nous sensibilisons à l'autopalpation et au dépistage précoce et que le gouvernement nous dote de l'unité de mammographie dans notre ville de Beni. Ça va nous aider. Et à la femme rurale, qu'elle soit informée aussi.
Docteur Gisèle Kilomano, vous remercie.
Notre invité répondait aux questions de Marc Marofimbo depuis Beni au Nord Kivu. Par ici, prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.